Africa.
Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et dans quelques instants, nous retrouverons nos invités pour analyser les raisons du fort taux d'abstention observé aux dernières élections régionales ici en France. Nous proposons de parler un peu de la loi sur le terrorisme adoptée vendredi au Sénégal.
Décryptage dans le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Docteur Pascal Oudiane, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enseignant-chercheur à l'Université Gaston-Berger au Sénégal. Les députés ont adopté vendredi, au cours d'une séance particulièrement tendue, le projet de loi controversé sur le terrorisme. Des incidents violents ont été enregistrés peu avant le vote. Pourquoi l'opposition dénonce-t-elle cette loi ?
L'opposition sénégalaise dénonce ce projet de loi parce que c'est une loi fourre-tout. On appréhende, ils craignent de pouvoir instrumentaliser en fait cette loi pour prise de position politique. Aux articles du projet de loi sur le chapitre premier qui dit que voilà, donc on va accuser, on va traiter de terroristes. Hein, tous les actes pourront être, pourront contrecarrer, autant pour moi, le fonctionnement des institutions au niveau local.
C'est-à-dire, y compris des manifestations de l'opposition ?
Absolument, c'est ça. Parce que les gens vont manifester, et lorsqu'il y aura des dérives, donc il sera possible de les condamner, de les qualifier comme étant des terroristes. C'est ça la crainte majeure pour les acteurs politiques.
L'opposition parle de loi liberticide et accuse le pouvoir de vouloir utiliser cette nouvelle loi pour réprimer toute contestation contre le régime en place. Est-ce que vous partagez cette crainte de l'opposition ?
Alors oui, parce que c'est le moment auquel en fait la loi a été, brandie. Là, nous allons vers des élections locales et présidentielles. Alors, pourquoi cette loi-là arrive à cette période ? Il y a des opposants qui gênent. Alors, il faut tout faire déjà pour les empêcher de prendre des galons, comme on dit, si on peut le dire ainsi. Ici, en fait, au Sénégal, on a eu beaucoup d'événements qui peuvent expliquer un petit peu en fait le comportement de l'opposition. Alors, lorsqu'un projet de loi comme ça, qui traite du terrorisme, assimile certains actes pouvant confondre des citoyens, des hommes politiques, des citoyens non aussi, dans leur prise de position, dans leur liberté, de défendre leurs idées, on confond tout ça justement à des actes terroristes. Alors, certainement, ça va empêcher de prendre certaines positions.
Mais le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Maître Malick Sall, affirme que le Sénégal a été classé en zone grise et qu'il s'agissait pour le Sénégal de conformer ses lois aux règles internationales de lutte contre le terrorisme.
Il a raison de soutenir en fait que le Sénégal doit pouvoir s'aligner à ce qu'il a déjà ratifié au niveau international. Mais comme on dit toujours, c'est le moment auquel en fait la loi est arrivée. Parce que c'est une loi qui date de 1965, qui a été réactualisée et maintenant on essaie en fait de pénaliser. Et on sait qu'il y a des élections à venir, les élections locales au mois de janvier prochain et après il y aura les élections présidentielles. Alors ça pose beaucoup de problèmes dans l'arène politique puisque les opposants politiques vont devoir critiquer la gestion du régime en place avec leurs mots, c'est-à-dire avec leur verbe, avec leur style. Et on sait qu'il y a une nouvelle opposition qui est là et qui ne mâche pas ses mots, et qui, on peut dire aussi, survient d'une grande crise socio-économique, d'une crise administrative aussi, et qui est en train de faire son chemin. Certes, c'est vrai que c'est parfois trop chargé, c'est-à-dire les paroles véhiculées, employées contre le régime, mais quand même cette opposition est là et aujourd'hui on craint que cette loi soit instrumentalisée contre en fait cette population-là.
Derrière cette loi, l'objectif réel du pouvoir serait de museler l'opposition ?
Oui, vous savez, dans le droit, hein, ce sont des interprétations. Hein, voilà, donc on écrit, après chacun fait son interprétation. Mais quand même, si on interroge les faits, le régime en place a toujours tenté de museler l'opposition, de faire zéro opposition. Et lors des présidentielles dernières, on n'a pas eu pratiquement d'opposition, à part en fait cette nouvelle opposition dirigée par Sonko, et après d'autres qui ont été, recalés à cause des parrainages. Alors là également, aujourd'hui, la population est en train de pousser pour qu'on puisse avoir en fait des porte-étendards pour cette opposition-là. Alors, ces opposants-là se réunissent, ils font des manifestations, que ce soit au niveau du M23, que ce soit au niveau du M2D, ils font des manifestations régulières pour pouvoir, disons, donner leur avis sur la gestion du pays. Alors, forcément, les gens peuvent penser à ça, que cette loi soit vraiment instrumentalisée contre eux. Et même pas contre eux, contre tout autre citoyen qui pourrait prendre part à ces manifestations-là.
L'opposition annonce une riposte et prépare des manifestations. Est-elle en mesure aujourd'hui de mobiliser les Sénégalais contre cette loi à l'image de ce qu'on a vu en mars dernier dans le cadre de l'affaire Sonko?
Oui, bon, moi je crois que également c'est politique, c'est de bonne guerre, c'est vrai. L'opposition est en train de réfléchir sur des stratégies. C'est vrai que si on fait un sondage, parce que moi également, c'est vrai que je travaille sur les réseaux sociaux et dans la vie active, dans les faits, des petites enquêtes là, mais on sent que la majeure partie, des résidents, penche pour l'opposition en disant que c'est un prétexte hein, pour museler en fait cette opposition là.
Docteur Pascal Oudiane, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Enseignant-chercheur à l'Université Gaston-Berger au Sénégal.
Africa. Le grand rendez-vous sur Africa Radio.
Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition du Grand Rendez-vous. Comment expliquer le taux d'abstention record aux dernières élections régionales en France? Quelles leçons à tirer et quelles réponses à un an de la présidentielle? Nous en débattons ce soir avec trois invités. Amina Bakar, bonsoir. Vous m'entendez? Bonsoir, Madame Bakar, merci d'être avec nous, candidate titulaire au départemental pour Europe Écologie Les Verts. Vous êtes également chargée du développement des clauses sociales dans les marchés publics. Jean-Yves Camus, bonsoir, bienvenue. Allô, Monsieur Camus, politologue, chercheur associé à l'Institut des Relations internationales et stratégiques IRIS. Vous êtes également directeur de l'Observatoire des radicalités politiques de la Fondation Jean Jaurès. Nous avons également le plaisir d'accueillir Abel Mbouyi. Bonsoir.
Bonsoir Liliane et bonsoir à toutes et à tous.
Vous êtes président de la plateforme citoyenne FR, Tous Uniques, Tous Unis, et également auteur de « Qu'est-ce qu'être français ?». Je précise, madame et messieurs, qu'il ne s'agit pas ce soir de commenter ou de revenir sur les résultats des régionales marqués, on le rappelle tout de même, notamment par la reconduction des présidents et présidentes sortantes de régions, par une raclée pour le Rassemblement national et le parti présidentiel La République en marche, qui n'ont obtenu aucune région. Mais ce soir, nous allons essayer surtout d'identifier et d'analyser les causes de l'abstention record à cette élection. Je le rappelle, 66% au premier tour et presque 63%, 65% pardon, au premier tour et presque 63% au premier. Et ce, malgré les appels au sursaut des leaders de certains partis. Ça a été en tout cas le cas de Marine Le Pen, du Rassemblement national. Alors pourquoi cela n'a pas fonctionné d'après vous, M. Mbouyi?
Moi, je pense qu'il y a un problème de représentativité politique dans laquelle le peuple ne se retrouve plus. Aujourd'hui, on voit qu'il n'y a qu'un tiers de la population, un tiers des inscrits qui est allé voter. Et souvent, lorsque l'on regarde de près, ces personnes qui sont allées voter, ce sont soit des militants, soit des retraités en général. Et on peut aussi rappeler le chiffre de 80% quand même des 18-34 ans qui ne sont pas allés voter. Donc il y a un désintérêt Pourquoi ? Il y a le problème de représentativité, il y a le manque de pédagogie aussi, hein. C'est un mot que l'on répète depuis un certain nombre d'années, mais le fait de savoir à quoi sert un conseil départemental, à quoi sert un conseil régional, je pense que ça n'a pas été assez bien expliqué, d'autant plus qu'on a plus eu l'impression, lors de cette campagne régionale, que c'était un marchepied, voire un tremplin pour l'élection présidentielle. Donc vous avez un certain nombre de personnes qui se sont dit que ça ne sert à rien d'aller voter tout simplement parce que on a l'impression que les choses n'évoluent pas et certaines peuvent aussi peut-être préfèrent attendre la présidentielle pour pouvoir se prononcer.
C'est vrai que du côté de plusieurs partis, notamment de la droite avec les Républicains, que ce soit Valérie Pécresse qui a été réélue, de même que Xavier Bertrand ou Wauquiez, on parle beaucoup déjà de l'année prochaine, hein, de la présidentielle. Je voudrais d'abord aussi écouter votre avis, Madame Bakar. Est-ce que pour vous, les raisons qui expliquent cette désaffection, est-ce que ce sont les mêmes raisons que vient de dire Monsieur Bouilly, c'est-à-dire problème de représentativité, manque de pédagogie ?
Oui, rebonsoir. Donc, merci pour votre invitation. Donc, je rejoins effectivement Abel Bouilly sur la question de la représentativité. Maintenant, je pense qu'il y a un effet boule de neige. L'abstention est grandissante et cela, pas forcément que sur les élections. On est focalisé sur les élections départementales et régionales, mais déjà, initialement, sur les élections municipales, l'abstention était montante. La crise de démocratie est quelque chose qui est lancé. La crise des partis également, pour certains qui sont des anciens partis en inertie et qui sont pas forcément dans le logiciel de la représentativité la plus élargie, en sont aussi impactés. On le voit où on voit que le dynamisme, surtout sur les partis un peu plus jeunes, récents, qui sont sur inventer un peu d'une nouvelle façon de toucher, impacter, appeler à mobiliser, à voter, n'est pas suffisant. On le voit effectivement sur ces élections-là. Il y a deux enjeux. Il y a l'enjeu déjà d'avoir couplé deux élections en une, les départementales et les régionales, qui étaient dissociées précédemment. Le fait d'avoir fusionné ces deux élections sans expliquer, on l'a vu dans les bureaux de vote, des personnes n'ont fait le vote que pour une des deux élections, sans savoir qu'il y avait la deuxième, ni savoir pourquoi. Sachant qu'en toile de fond, on avait déjà eu des débats précédemment sur l'utilité de garder ou pas ces deux instances, parce que l'une des deux n'était pas doublon, qui n'a pas été soldée par cette majorité présidentielle. Donc aujourd'hui, on vote pour deux entités sur des compétences, des fois, qui sont...
Donc vous pensez qu'il y a eu une sorte de confusion dans la tête des électeurs, ou tout au moins la plupart, ou certains électeurs?
Exactement. On aurait souhaité qu'il y ait un memento avec l'enveloppe des candidats qui explique le rôle des instances territoriales et quel était leur contour, parce qu'il y a eu des débats qui ont été orientés sur des enjeux qui n'étaient pas du tout des compétences des instances territoriales. On aurait souhaité que ça puisse être aussi une boussole dans le discernement pour choisir en bonne et conscience sur les programmes proposés, pour ceux qui ont vraiment fait le choix d'établir un programme, ce qui n'a pas été le cas de tous les candidats. Donc voilà, il y a un problème effectivement sur l'accompagnement, je pense, sur la culture démocratique, sur ces élections qui sont plutôt le ventre mou des élections. Hein. Les élections où on a plus de votations, c'est quand même les municipales et les présidentielles, où on est sur des enjeux qui touchent plus le quotidien des... Enfin, qui touchent dans l'imaginaire plus le quotidien des électeurs, alors que ces instances-là le touchent également, mais où on n'a pas suffisamment fait de pédagogie, je pense. Après, la crise démocratique est en cours. Aujourd'hui, il y a un vrai appel à un regeneramento des partis politiques en général, hein, plus anciens, plus traditionnels, qui doivent se régénérer et dans la représentation et dans le renouvellement des partis.
Excusez-moi, Madame Bakar, vous parlez de régénération, vous êtes déjà là dans la dernière partie de l'émission, peut-être, mais quand vous parlez de régénération, en même temps, on peut se dire, mais ceux qui étaient là ont tous été reconduits. Est-ce que c'est véritablement un problème de... Est-ce que c'est vraiment un problème de régénération de la classe politique ou des leaders qui sont le visage de cette classe politique? Puisque tous, quasiment, qui étaient, ont été reconduits.
Oui, je suis d'accord avec la crise, même pour les municipales. Hein, il y a eu une forte prime aux exécutifs sortants. Je pense que la crise sanitaire passant par là, il y a un réflexe de repli, un réflexe de protection. Et pour le coup, on lit ce qu'on connaît déjà et pas forcément le bilan de la personne qu'on a choisie. Donc effectivement, cela ne coupe pas les réflexions de régénération, mais effectivement, il y a un repli, on le voit. Il y a eu aussi l'abstention aussi de certains électeurs qui ont la tradition du vote, mais parce qu'on sort tout juste de la période de déconfinement, la période de vaccination n'est pas encore aboutie. Donc oui, effectivement, il y a ce repli qui est en forte maintien, progression sur ces résultats.
Merci beaucoup. Pour l'instant, hein, on n'arrive pas à joindre notre troisième invité, Jean-Yves Camus, politologue et chercheur associé à l'IRIS. On espère l'entendre dans quelques instants. Je reviens à vous, Monsieur Bouilly. On parlait tout à l'heure aussi, hein, en introduction, de cette forte abstention. Il y a un fort taux d'abstention générale, mais au niveau des partis extrêmes, que ce soit l'extrême gauche et l'extrême droite, il a été encore beaucoup plus accentué. Comment l'expliquez-vous ?
Je dirais que ce n'est pas forcément une mauvaise chose, surtout en ce qui concerne l'extrême droite, d'autant plus qu'on voulait nous imposer quelque part le fait que le Rassemblement national pouvait prendre 4 à 5 régions et que l'on devait tous se préparer à un round 2 pour 2022, Macron contre Le Pen. Donc il est vrai qu'aujourd'hui, le désintérêt aussi se montre beaucoup dans les classes populaires. Avant, il y avait un vote de contestation et c'est ce qui avait peut-être bénéficié à Madame Le Pen, c'est-à-dire que certains pouvaient se dire qu'ils en avaient marre de la droite et de la gauche traditionnelle, donc ils allaient vers les extrêmes pour pouvoir montrer une contestation. Mais aujourd'hui, la contestation ne se manifeste même plus par le vote. Et on peut rajouter à
ça. C'est valable pour le parti de Jean-Luc Mélenchon,
pour l'extrême gauche aussi, qui, par rapport au score de 2017, je pense, a perdu énormément d'électeurs. On l'a pu le dire à plusieurs reprises lors de votre émission que l'abstention est le plus grand parti de France et que malheureusement, il va continuer de grandir. Parce que quand vous regardez même les programmes dans le fond, une fois que l'on a passé les sujets phares, les sujets vitrines de chaque parti, aujourd'hui, c'est très difficile pour un électeur de pouvoir se retrouver. C'est très difficile pour un jeune qui est au chômage, qui recherche de l'emploi, de trouver une différence, puisque aujourd'hui, tout le monde prône l'écologie, tout le monde prône une écologie, tout le monde prône une économie plus forte, tout le monde prône les mêmes termes en réalité. Donc comment est-ce que l'électeur va se retrouver? Quelles sont les réelles disparités en réalité? Et c'est vrai que ce n'est pas évident. On rajoute le manque de pédagogie qui est quand même très important et surtout le fait que l'électeur, ce n'est pas une personne ou l'électrice ne sont pas des personnes à qui on donne des ordres. Quand on a pu voir les injonctions au vote. Certains candidats qui ont pu dire à leurs électeurs « bougez-vous ».
Comme Marine Le Pen,
un électeur
qui appelait les électeurs de l'extrême droite à un sursaut.
Exactement, il y a eu un appel à un sursaut, il y a eu l'expression « bougez-vous » qui a été dit, il n'y a rien de plus repoussant, parce qu'aujourd'hui, le peuple a besoin de liberté et va revenir sur la table le débat de la reconnaissance du vote blanc, parce que dans une démocratie totale, le vote blanc doit être reconnu et ne doit pas être juste un outil de fantaisie.
Merci beaucoup, Abel Mboyi. Nous allons observer une pause et nous allons continuer dans la seconde partie de cette émission à poser le diagnostic de ce taux d'abstention record observé lors du premier tour il y a une semaine et aussi du second tour hier des élections régionales ici en France. À tout de suite.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Comment expliquer la désaffection des électeurs lors des élections régionales ici en France? Nous en parlons ce soir avec nos invités. Abel Mboyi, président de la plateforme citoyenne FR Tous Uniques, Tous Unis. Amina Bakar, candidate titulaire au départemental et chargée de développement des clauses sociales dans les marchés publics pour Europe Écologie. Les Verts, et pour l'instant, nous n'arrivons pas à joindre notre troisième invité, le politologue Jean-Yves Camus. Monsieur Mboyi, je souhaite qu'on analyse aussi en quelques mots cet autre aspect observé à l'issue de cette élection. Est-ce que le taux d'abstention, on parlait tout à l'heure, qui était plus fort au niveau des partis, au niveau de l'extrême droite et de l'extrême gauche, là était aussi, selon les régions, là aussi, quelle explication?
Nous voyons qu'il faut faire attention à la politique des sondages, premièrement. Et deuxièmement, c'est que l'électorat qui est convoité par les extrêmes, que ce soit l'extrême gauche ou l'extrême droite, c'est vraiment l'électorat populaire, la jeunesse. Et ce sont vraiment les personnes qui, je pense, sont le plus fatiguées, qui ont pu montrer leur agacement au travers, justement, de l'émancipation du mouvement des Gilets jaunes il y a 2-3 ans, qui s'est fini malheureusement, comme on le sait, même si ils continuent de vivoter. Nous voyons que la démocratie aujourd'hui est malade de ses maux, est malade de son manque de représentativité.
Oui, là vous parlez je spécifie bien, on a parlé tout à l'heure de la désaffection plus prononcée au niveau des extrêmes. Maintenant, au niveau des régions, qu'est-ce que cela traduit? Est-ce qu'il y a peut-être eu plus de travail de pédagogie dans les régions où il y a eu le moins fort taux d'abstention que dans d'autres? Pourquoi est-ce que...
D'accord, je n'avais pas compris la question.
Oui.
Au niveau des régions, comme ça a été dit tout à l'heure par Mme Bakar, il y a une sorte de prime aux sortants. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que l'on prenne Valérie Pécresse, Xavier Bertrand ou autres, que les présidents de région n'ont rien fait. C'est juste que la problématique, c'est qu'on n'a pas assez d'informations sur ce qui est fait aujourd'hui. Si vous parlez avec une grande majorité de personnes, quand on parle de l'impact des régions sur la qualité des transports, la gestion des ports, des aéroports, des trains, on parle du TER, les lycées, la formation professionnelle, l'insertion des jeunes en difficulté, l'aménagement du territoire ou le développement économique, ça ne parle pas. D'autant plus que lorsque vous preniez un petit peu les représentants gouvernementaux qui étaient candidats à ces régionales, eux parlaient de ces sujets comme étant du fait de l'action du gouvernement et non des régions. Donc aujourd'hui, il y a cette sorte de prime aux sortants parce que effectivement, vous avez un certain nombre de personnes qui restent tout de même attachées à la vie démocratique, attachées à la vie politique et qui sont satisfaits de ce qui a été fait pour les uns et qui ne voient pas ce qu'un autre président ou une autre présidente ferait de mieux à la place.
Peut-être ils se disent qu'ils sont tous les mêmes, donc pas la peine de changer pour élire quelqu'un d'autre.
Ben, pour une partie, il y a ceux qui sont vraiment satisfaits et puis il y a les autres parmi ceux qui ont voté qui voient qu'il n'y a rien qui pourra changer parce qu'il n'y a pas, lorsque vous lisez les programmes, il n'y a pas d'annonce phénoménale qui annonce un grand changement par rapport aux personnes qui étaient déjà en place.
Madame Bakar, sur cette différence hein, de taux d'abstention dans les régions, j'insiste dessus parce qu'il est important qu'on pose clairement le diagnostic de cette situation. Comment expliquer que, par exemple, au niveau du Grand Est, j'en parlais aussi en début d'émission, on a observé que 7 électeurs sur 10, 70% taux d'abstention, alors que ça a été beaucoup moins, par exemple, pour la Corse, où, qui a eu le plus faible taux d'abstention, 41%. Est-ce qu'il y a une explication, très rapidement ?
Ah oui, effectivement, l'abstention a été assez inégale selon les régions les plus... mauvais élèves, on va dire, c'est effectivement le Hauts-de-France et la région Île-de-France en deuxième ou troisième position. La Corse est quand même très fortement mobilisée. Je pense qu'après, selon les régions, chacun s'est saisi de jouer l'échelon de proximité de ces instances territoriales et effectivement avait un ancrage pour certains des candidats qui ont joué. Maintenant, sur des régions où les personnalités têtes de liste étaient quand même des personnalités beaucoup ministrables ou des têtes de parti, on voit un désamour des candidats politiques dans la classe politique en général. D'ailleurs, il y a une modification de la typologie qui se dessine hein, des abstentionnistes et qui a beaucoup impacté notamment l'extrême droite qui a reçu un soufflet pour ces élections. Et pour cause, parce que leur électorat qui d'habitude se mobilise ne s'est pas fortement mobilisé. Donc on voit que la typologie des abstentionnistes change dans la tranche d'âge. Beaucoup de jeunes, donc effectivement, sur la région Île-de-France, 84% des abstentionnistes jeunes se sont abstenus. Mais également CSP et âge. Donc on voit qu'aujourd'hui, l'abstentionniste n'est plus le fait que d'une classe populaire ou le fait d'une catégorie d'âge ou de CSP. Elle commence à être transversale. Et c'est dans ce sens-là que je pense qu'elle amène une crise un peu démocratique, mais... une crise des partis. Et au-delà de ça, après, pour les régions, chaque région a aussi sa particularité, son contexte, l'insularité au niveau de la Corse joue, effectivement. Et puis les listes étaient tournées aussi autour d'un projet nationaliste ouais. ou autre, quelque chose qui ancrait dans une réalité très contextuée, qui n'est pas le cas sur les autres régions, où on voit qu'il y a quelque chose d'assez généraliste et qui était perçu pour beaucoup comme un trépied, comme a dit M. Boyer, je le rejoins, pour les présidentielles. D'ailleurs, il n'y a vraiment aucune décence là-dessus. Les candidats ont, en amont ou en aval, tout de suite parler de mettre en place la démarche pour les présidentielles. Donc les gens ont perçu qu'ils votaient pour... Est-ce que c'était pour les régionales départementales qui étaient la deux élections ou est-ce que c'était également pour mettre en amont un peu plus de force sur des candidats pour les booster pour les présidentielles? Donc il y a vraiment eu une confusion qui a été entretenue.
Est-ce qu'il y a un camp politique plus responsable que l'autre de cette désaffection?
Écoutez, ça fait quand même quelques années qu'elle est décriée. Je pense que même déjà même avant Chirac, on commence à parler de la crise démocratique des partis. Donc non, je dirais pas qu'il y a un parti plus ou moins que l'autre qui en est responsable. Maintenant,
ou un courant politique.
Un courant politique, non, je ne pense pas. Je pense que c'est le tenant d'un peu tous. Hein. Et puis après, effectivement, il y a cette confusion sémantique où au niveau de tout, comme disait M. Boyer, beaucoup de programmes se ressemblent. Aujourd'hui, chacun s'approprie la sémantique des autres. Il n'y a plus vraiment de clivage entretenu idéologiquement ni éthiquement. Mais on voit même dans les exécutifs qu'il y a des réalisations diverses.
Mais excusez-moi, Madame Bakar, est-ce que ce n'est pas aussi lié à ces alliances qui se font un peu parfois dites contre nature? On l'a entendu Valérie Pécresse le dire. On a entendu également Marine Le Pen le dire. Vous dites qu'il n'y a plus de différence entre les partis politiques, les idéologies, mais c'est parce qu'elles aussi, elles sont amies aujourd'hui, ennemies demain. Est-ce que les électeurs ne sont pas un peu perdus, finalement ?
Il y a des porosités qui existent naturellement entre les partis, c'est possible, il y a des ententes, il y a des dogmes qui se regroupent. Maintenant, il y a des porosités pour moi un peu moins bienvenues, hein, la droite et la droite extrême, qui est dans le courant historique, qui était un peu toujours dans ce sens-là, mais qui aujourd'hui en arrive à draguer.
Il y a aussi l'extrême gauche et l'extrême droite, on loue,
faut pas... Exactement, oui. C'est-à-dire qu'il y a des porosités entretenues qui font qu'il y a un désamour des politiques, on ne sait plus...
Valérie Pécresse a par exemple reproché à votre parti, Europe Les Verts Écologie, de s'être alliée aux candidats de la France Insoumise et de l'extrême gauche.
Alors, juste, je reviens sur ma présentation, je suis candidate d'une liste citoyenne et mon binôme était Europe Écologie des Verts. Donc je soutiens effectivement l'idéologie d'Europe Écologie des Verts. Je pense qu'Europe Écologie des Verts est un mouvement jeune qui est en dynamisme et qui attire dans sa force médiane bien des forces qui sont naturellement plus des forces de gauche, qui va jusqu'à un peu plus l'extrême gauche. Après, c'est à eux de voir quel est le marqueur social qu'ils souhaitent ancrer. Mais aujourd'hui, rassembler est un défi. Hein. Aujourd'hui, rassembler est un défi et Europe Écologie des Verts est dans cette force de rassemblement et de dynamisme.
Merci.
Les autres partis sont plus dans des ententes plutôt de
calcul
électoral et du coup ça perd les électeurs, j'ai l'impression, parce que idéologiquement on voit bien que quand même s'il n'y avait pas le maintien de la liste République En Marche sur beaucoup de régions, notamment la région Île-de-France, c'est des personnes qui auraient voté pour Mme Pécresse. Donc aujourd'hui, il y a des entremêlés qui perdent dans les candidats, mais également dans les programmes, et beaucoup de programmes se ressemblent et ça devient difficile de choisir. Donc on choisit des personnalités au lieu de choisir des projets.
Voilà. Abel Mboyi, est-ce qu'on peut parler, on peut aller jusqu'à parler de rupture entre, ou de divorce entre les Français ou les électeurs français et la classe politique, leurs leaders ou les partis? À quel niveau d'ailleurs se situerait ou s'établirait cette rupture ou divorce?
Sans vouloir faire de jeu de mots, je dirais que la rupture est en marche. On n'est pas encore au point de non-retour et c'est vrai que c'est un avertissement pour l'ensemble de la classe politique. D'ailleurs, si vous me permettez de rebondir, quand je voyais un petit peu sur les différentes chaînes info hier soir le spectacle pitoyable qui a été donné par la classe politique en train de se remettre la, de se rejeter la faute les uns sur les autres et ne parlons pas du tout du quotidien des Français, on est toujours dans ce logiciel sclérosé, périmé, qui n'intéresse plus la population en réalité. Donc aujourd'hui, il faut vraiment un réveil politique. Si les gens ne sont pas allés voter, moi je ne crois pas que ce soit à cause de la crise sanitaire, je ne crois pas que ce soit à cause du beau temps, c'est parce qu'il y a un désintérêt et les gens ne se retrouvent plus. Il faut rappeler qu'en 2017 quand même, c'est 25% du corps électoral, soit près de 10 millions de personnes qui s'abstient au second tour. Il faut rappeler aussi un point de début de rupture non négligeable, le vote pour la Constitution européenne en 2005 où la population par référendum a voté non et les politiques sont allés vers le oui quand même. Donc il y a quand même des plaies béantes qui restent. Et ce qui se passe, c'est que plus on avance, on a l'impression que plus les générations qui font tourner le pays ont moins d'appétence à la vie politique. Moi, je vois comment nos parents suivaient la politique. Je vois aujourd'hui ma génération de quarantenaires, on est moins assidus. Et moi, je crains pour les générations à venir quand je vois déjà comment les jeunes, même jeunes adultes, préfèrent être sur TikTok ou Instagram plutôt que de s'intéresser à la vie de la cité.
D'accord. Mais est-ce que vraiment les Français ont un problème avec les élections présidentielles? Parce que là, jusque là, on parle des élections européennes ou des élections municipales ou européennes de 2014 où le taux d'abstention était quand même de plus de 57%. Mais on a l'impression que pour les présidentielles, ce n'est pas pareil. Est-ce que ce n'est pas aussi par choix que les Français décident de se mobiliser pour la présidentielle, mais par des élections, par les autres, et non pour les autres élections?
L'élection présidentielle reste, excusez-moi cet anglicisme, le main event quand même. C'est de par sa rareté, le fait que ça ait lieu une fois tous les 5 ans, le fait que vous avez les élections
législatives. Les régionales aussi, c'est une fois tous les 6 ans, donc, mais ça n'a pas le même intérêt, ça ne suscite pas le même engouement.
C'est vrai, vous avez raison, mais là on parle du chef de l'État, on parle de vraiment celui qui incarne la France, et avec cette notion de dégagisme qui a commencé à s'installer, on l'a vu en 2017, que ce soit au niveau des primaires de chaque parti politique, c'est encore la seule élection où les Français
ont encore l'impression de pouvoir agir sur l'avenir du pays. Mais on voit que même à ce niveau-là, il commence à avoir une érosion dans la confiance qui est de plus en plus importante. C'est pour ça que la prochaine échéance de 2022 va vraiment être très importante et que les différents candidats et candidates doivent vraiment travailler pour présenter des programmes qui donnent de l'espoir et ne plus présenter des personnalités qui ont de l'ambition. Sinon,
mais quand on regarde les chiffres, hein, est-ce que on voit par exemple pour les dernières élections présidentielles avec un taux de participation de plus de 78%, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ce taux d'abstention pourrait également être observé lors des prochaines élections? Est-ce que la présidentielle est menacée?
Aujourd'hui, c'est très difficile à dire. Je vois qu'il y a débat, effectivement, depuis une semaine sur ça. Certains pensent que oui, d'autres pensent que non. Moi, je ne pense pas. Je pense que l'élection présidentielle va quand même rassembler. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir toute une partie de la population qui va vouloir, entre guillemets, si vous me permettez l'expression, dégager Emmanuel Macron. Vous allez avoir une autre partie qui va vouloir se battre pour pouvoir le garder. Il y a les électeurs de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon, je pense qu'ils vont se réveiller parce que maintenant, suite à cette élection régionale et départementale, chacun va quand même affiner sa stratégie politique, sa stratégie de communication, la manière de présenter les choses à la population, comment redonner envie. Donc je pense que l'on va partir sur une élection qui, à la différence de ce que nous venons de vivre hier et il y a une semaine, vont redonner de l'intérêt. Parce que
d'autant plus qu'il y a des acteurs inattendus, peut-être qui vont être impliqués, comme Éric Zemmour, dont les affiches ont été placardées déjà au lendemain de cette élection dans certaines villes de la France.
Oui, donc on ne sait pas ce qui peut se passer. Souvenez-vous, il y a 5 ans, à la même période, c'était Alain Juppé qui était le grand favori. Donc on ne sait pas ce qui peut se passer. Et effectivement, je pense que ça reste une élection, comme je viens de le dire, où les Français ont encore l'impression de pouvoir agir sur le destin de la nation.
Merci Abel Mboyi. Et nous allons observer une dernière pause et puis revenir pour conclure notre débat et parler de cette classe politique. Est-ce qu'elle peut être à l'écoute ou elle sera-t-elle à l'écoute de ce message passé par les abstentionnistes et quelle réponse y apporter? Et c'est dans la suite et fin de ce débat.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et suite et fin de notre débat sur les leçons et réponses à apporter au fort taux d'abstention observé lors des élections régionales ici en France. Et nous en parlons avec Abel Mboyi, président de la plateforme citoyenne FR Tous Unique, Tous Unis. Et Amina Bakar, candidate titulaire au départemental pour Europe Écologie Les Verts et chargée du développement des clauses sociales dans les marchés publics. Madame Bakar, alors, monsieur Mboyi parlait tout à l'heure de cette classe politique divisée qu'il critique. Est-ce que cette classe politique-là, aujourd'hui, est en mesure d'écouter le message que leur adressent ces abstentionnistes? Et déjà, quel est ce message?
Alors, il est très dur de donner une direction et un seul message à, effectivement, une association qui va être plurielle, je le pense, hein. Je pense qu'ils ont pris le pouls, surtout de la limite de partir sur des candidatures d'individus. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce qui est vraiment la force et la dynamique de ces élections régionales et départementales, c'est surtout l'union, qui a été pas forcément abouti pour en amont. Chaque parti a voulu porter un candidat et du coup ils sont entendus sur le deuxième tour sur des unions et c'est l'union qui a gagné, c'est pas les partis dans leur individualité. Donc ça rappelle tout le monde aux urnes et ça rappelle aux enseignements que les urnes nous obligent à en tirer, c'est-à-dire que les différentes forces, hein, que ce soit de droite ou de gauche, après on parlera du centre, ont pris et regagné en force. Et que lorsqu'ils avaient la perspective d'une union, d'une droite unie, d'une gauche unie, et diverse avec Europe Écologie des Verts d'ailleurs.
Mais quand on écoute M. Mboyi tout à l'heure, il n'est pas très optimiste. La question était de savoir, cette classe politique-là aujourd'hui, telle que vous la connaissez, vous en faites partie, est capable de ce sursaut qui permettra peut-être de corriger les erreurs qui ont conduit à ce fort taux d'abstention. Marine Le Pen parlait de crise profonde de la démocratie locale.
Je suis tout à fait d'accord. Ben, quand on voit que depuis des années, notamment depuis le président Chirac, on a eu beaucoup de votes au présidentiel contre
contre le Rassemblement national notamment, et qu'on ne vote plus forcément pour un candidat, pour un projet, ça appelle un désamour, un désaveu déjà d'un projet politique. Après, il y a eu d'autres candidats qui ont été élus, mais avec une majorité très faible par rapport au candidat qui a été perdant. Je parle notamment de Nicolas Sarkozy, Ségolène Royal, ou Hollande et Nicolas Sarkozy. Chaque fois, ça a été une course et une quête sur un fil du rasoir. Donc du coup, la gouvernance est rendue difficile, voire impossible, et c'est ce qu'il y a eu, en récurrence des mouvements fortement contestataires et qui ont entravé la mise en place d'un projet politique qui n'était pas forcément majoritairement unanime. Donc pour le coup, pour les années à venir, bah effectivement, pour moi, je pense qu'il y a des enjeux de dessiner des vrais partis avec des vrais clivages, parce qu'il faut dogmatiquement asseoir une assiette bien mieux dessinée, bien plus explicite pour que les électeurs s'y retrouvent. Et deuxièmement, porter plus une union que porter des individualités qui peuvent se tromper, qui ne peuvent pas gouverner seules, quoi qu'il arrive de toute façon, et recréer des pôles, donc que ce soit les droites, les gauches et le centre. Et aujourd'hui, chacun doit y travailler hein, dans le projet, et puis après apprendre à trouver les canaux de communication auprès des électeurs pour retrouver cet amour des politiques. Après, il y a tout ce qui est l'éthique. Aujourd'hui, ce qui transparaît aussi, c'est effectivement un désamour des politiques, parce que en termes d'éthique, certains ont quand même mis en lumière des pratiques qui ont déçu de certains exécutifs. Aujourd'hui, il y a vraiment un enjeu de regagner en transparence et en éthique responsable. J'espère que ces élections présidentielles seront aussi l'occasion de mettre sur la table plus de concertation citoyenne, et d'éthique également. Voilà.
Monsieur Boyi, quelles sont les réponses urgentes et adéquates que vous attendez pour corriger, comme je le disais tout à l'heure, cette situation, le taux d'abstention élevé?
Je pense qu'il faut un renouvellement de génération, parce qu'il y a des visages que l'on voit depuis un certain nombre d'années dans lesquels notamment les jeunes ne se retrouvent plus. Si vous me permettez cette petite digression, il y a trois types d'électeurs en réalité, parce que vous avez posé la question s'il y avait un message. Je pense que oui, vous avez l'électeur ou l'électrice qui vote par conviction, par adhésion, que ce soit par tradition ou par c'est quoi vraiment dans un programme. Vous avez l'électeur ou l'électrice qui vote par militantisme de base. Et puis vous avez un certain nombre d'électeurs et d'électrices, toute une population qui a été paupérisée, avec lesquels on a fait pas mal de clientélisme, qui vote uniquement pour regarder en fonction de quel est le candidat ou la candidate qui lui semble être le moins ou la moins raciste. Et ce système ne peut plus fonctionner aujourd'hui. Il est temps pour les politiques de changer de logiciel et de enfin incarner le fait que le verbe « être » est supérieur au verbe « avoir ». Il faut un changement de génération, il faut plus de diversité, il faut des idées nouvelles, il faut vivre aussi avec le temps quand on voit que dans un pays comme la France, on n'est pas capable d'instaurer le vote électronique parce qu'on a peur d'être hacké, alors que même s'il y a toujours des risques, on voit que ça fonctionne dans certains pays, on n'est même pas capable de faire des tests. La France doit vivre au 21e siècle et arrêter avec
Pour ce qui est du vote électronique, cela vient de la classe politique elle-même, cette prudence même, elle vient de la classe politique elle-même.
Oui, le ministre de l'Intérieur a pu exprimer ses craintes quant à des tentatives de hacking ou autre, mais aujourd'hui, vous avez des milliers de jeunes qui vous disent « je ne suis pas allé voter parce que j'avais la flemme de me déplacer ». Alors oui, on peut dire à ces jeunes « mais comment est-ce que tu peux avoir la flemme de te déplacer ?» Mais en même temps, qu'est-ce qu'on fait pour aller les chercher? Et ça ne concerne pas que les jeunes. Donc
aujourd'hui, la première réponse, c'est que la classe politique ou les acteurs politiques aillent vers les électeurs et leur proposent des stratégies ou bien des systèmes de vote qui leur ressemblent, auxquels ils sont adaptés.
Il y a une des mesures qui a été réclamée à corps et à cri par les Gilets jaunes. La population veut plus de référendums d'initiatives citoyennes aussi. Pourquoi est-ce que c'est un débat qui fait peur? Tout à l'heure, j'ai parlé en début d'émission de la reconnaissance du vote blanc. Pourquoi est-ce que c'est un débat qui fait peur? Des fois, on pense que les solutions, ça passe par des choses qui
Mais justement, à ce sujet, M. Boyi, certains posent le problème de la légitimité de ces présidents et présidentes sortantes et sortants qui ont été élus par à peine 35% des électeurs. Est-ce que pour vous, le problème se pose aussi?
Mais il y a forcément une légitimité, mais c'est comme certains maires aussi qui ont été élus avec des taux d'abstention records. Donc ça appelle à beaucoup d'humilité. Maintenant, ces personnes ont été élues et il faut respecter les fonctions qui sont les leurs. Il ne faut pas les dénigrer. Néanmoins, les politiques doivent veiller au fait que le peuple a besoin de ressentir à nouveau que les politiques sont là pour les servir
et non pas pour servir leurs ambitions.
Merci.
Parce que c'est ça aussi qui a été rappelé, le message, c'est vous les politiques, vous êtes là au service du peuple et ce n'est pas l'inverse.
Merci. Madame Amina Bakar, en une phrase vraiment, on a aussi observé que ce soit au niveau de la gauche comme de la droite, il y a beaucoup d'éclatements. Et pour ce qui est de la droite, Valérie Pécresse, Xavier Bertrand parlent de troisième force. Est-ce que ça ne va pas encore aboutir à plus d'abstention? Allô, Madame Bakar?
Oui, alors je n'ai pas saisi votre question sur la troisième
force. Oui, je disais, on observe aussi qu'on parle de plus en plus de troisième force, par exemple au niveau de la droite. Monsieur Boïs s'inquiétait, vous inquiétez de l'éclatement de la scène politique. Est-ce que ça ne va pas accentuer l'abstention, vraiment en deux phrases?
Oui, je pense que de toute façon, ça va continuer à accentuer l'abstention s'il y a d'autres éclatements en interne. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le sursaut, et c'est ce qui se fait déjà de façon structurelle dans chaque force politique, c'est de reconstruire l'union. C'est ce qui a été appelé par Mme Pécresse, ce qui va être appelé par les acteurs de la gauche et l'écologiste, et après le centre doit également se constituer. Parce que même dans la lecture et la lisibilité des forces et des clivages, elle n'y est plus. Donc aujourd'hui, il y a un enjeu à reconstruire ce qui a été déconstruit par la majorité présidentielle en place, qui a été dans le ni-ni. Aujourd'hui, on a perdu beaucoup d'électeurs là-dedans. C'est-à-dire que beaucoup ne savent plus quelle est la différence en termes de propositions, en termes de vision de société et en termes de candidats de projets.
Et d'idéologie.
Exactement. Donc l'éclatement ne sera peut-être pas le choix, je pense, opportun. Et je pense que ce n'est pas les amis qui l'ont lancé et qui a été annoncé par les candidats. Donc on parle. On sera plutôt sur des unions.
Voilà. Merci. Amina Bakar, candidate titulaire au départemental pour Europe Écologie Les Verts. Vous êtes également chargée de développement des clauses sociales dans les marchés publics. Merci à vous, Abel Mbouyi, président de la plateforme citoyenne FR, Tous Uniques, Tous Unis, auteur du livre « Qu'est-ce qu'être français ?». Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt.